La musique.
Bien qu'étant né à Istanbul, Erdal Kızılçay est neuchâtelois et vit aujourd'hui à quelques kilomètres de Vienne. Je me réjouissais de rencontrer ce musicien au parcours tout à fait étonnant. On serait tenté de dire qu'il a joué avec tout le monde. David Bowie, Iggy Pop, les Queen, Bernard Lavilliers, Jacques Dutronc, Françoise Hardy, mais aussi Albert Villaine, Louis Crelier, Sébastien Santamaria ou Pascal Auberçon. Erdal Kızılçay, ce garçon qui a grandi dans un petit quartier d'Istanbul, perd son papa à l'âge de 6 ans. Alors, il est élevé en orphelinat et c'est là qu'il découvre la musique. Aujourd'hui, il est riche d'une expérience musicale extraordinaire et toutes ces richesses-là, il a bien voulu les partager au micro de Par ici la musique.
J'avais perdu mon père, donc j'étais un peu orphelinat. Donc j'ai appris le violon, j'ai commencé à jouer mon violon dans une école que j'ai fait, toute mon école primaire. J'ai appris là-bas et puis mon frère aîné, qui avait 5 ans plus que moi, donc il a commencé déjà au conservatoire classique. Et bien évidemment, automatiquement, donc c'est lui qui m'a un peu forcé, si on peut dire, commencer l'école de conservatoire classique à Istanbul. Mm-hmm. J'ai en profité, j'avais 8 ans violon, mm-hmm. et après 12 ans, j'ai commencé donc directement au conservatoire d'Istanbul.
Ouais, au conservatoire, vous apprenez le piano, le trombone et l'harmonie.
Violon alto, donc c'était mon premier instrument. Piano, de toute façon, c'était obligatoire. Et troisième classe, je commençais toujours le trombone. Et bien évidemment, d'autres théories, enfin tout ce qu'on peut s'imaginer. En plus, on était internat, donc tout était lié avec. Ça a duré longues années. J'ai heureusement pu un peu sauter les classes au plus vite possible. Mais j'ai beaucoup en profité. Mais c'était mêmes années aussi, pas simplement classique, parce que je commençais à découvrir The Beatles, The Rolling Stones, The Animals. C'était vraiment les années 60. Et j'ai aussi un peu parti dans cette direction après.
Vous aviez conscience à ce moment-là que la musique allait vous faire vivre et qu'elle allait vous faire voyager?
100%. Je me suis déjà décidé de devenir musicien, d'ailleurs comme mon frère. Mais mon frère, il a choisi d'être musicien classique dans l'Orchestre symphonique d'Istanbul. Moi, je ne voulais pas continuer dans la musique classique. J'avais 16 ans déjà, j'ai essayé de partir avec un groupe, mais j'étais trop jeune, ils ne m'ont pas pris à cause de mon âge. Mais après, j'ai réussi de partir avec un groupe où j'avais 19 ans. Ouais, depuis
vous
la
étiez
Turquie.
Soliste là. Hein?
Voilà, j'étais guitariste et chanteur. Mm-hmm. Et bien sûr, avec mes qualités de pianiste, arrangeur, tromboniste, je jouais aussi. En même temps, je commence à apprendre la trompette, la flûte, les autres instruments. Surtout, je chantais. Et je suis venu une première fois ici en Suisse, l'année 1969, au mois de mai.
Ah oui?
Oui. Ah, comme musicien dans un groupe turc, on a tourné pendant 3 ans. Alors on commence à tourner ici en Europe, surtout en Suisse, en Allemagne, aussi de temps en temps en Suède. Mais surtout en Suisse, on a tourné beaucoup en Suisse. Et puis je retournais après 72 encore en Turquie à cause de mes services militaires turcs, etc. Tout ça. Donc, mais je suis resté toute ma vie musicien et puis je continue encore. Je je vous avoue que je me voyais toujours sur une grande scène avec beaucoup de spotlights et j'ai réussi même après ça. Donc, comme vous dites, c'était aussi ma vocation, je crois. Et puis j'ai eu de la chance, grâce à mon frère qui m'a vraiment poussé dans cette direction aussi. Il savait que j'avais vraiment un talent musical. Il m'a vraiment poussé à 100%. Et quand je lui ai dit un jour, je ne veux pas être musicien classique, j'adore le classique, mais je ne veux pas faire ça, je veux faire autre chose. Il dit, c'est ton choix, Erdal, tu fais comme tu veux. Et un jour, bien après ça, quelques années après ça, il m'a dit, tu as fait vraiment le bon choix. Je te félicite parce que j'ai commencé avec des artistes très très connus mondiaux comme David Bowie. D'ailleurs, j'ai fait la grande scène avec David Bowie, que je rêvais depuis mon enfance, quoi.
Erdal Kızılçay, on va parler justement de votre parcours musical en allant sur YouTube et en découvrant également des bribes de votre biographie. J'ai vu un disque qui s'intitulait Farunisa et je me suis demandé quelle était la définition de Farunisa.
Oui, Farunisa, c'est un ancien prénom turc et j'adore ce nom et ce nom, c'est ma mère. Et après son décès, bien sûr, elle était... Comme chaque maman, elle était très très forte pour nous parce qu'on a perdu notre papa assez tôt. J'avais 6 ans quand il est décédé, mon papa. Et j'adore encore aujourd'hui quand tu penses à elle. Je dédie cet album, je fais ça à son nom. C'est une dédication à ma mère, elle s'appelle donc Farunisa. Et c'est de mes compositions que j'ai déjà commencé d'ailleurs à Neuchâtel à l'époque. Je pense toujours encore sortir la version en anglais un jour, même instrumentale, tout ça. Il y a beaucoup de richesse dans cet album.
Vous avez beaucoup parlé de votre frère, de ce qu'il a pu vous apporter musicalement. Qu'est-ce que votre maman a apporté à Erdal ?
Pas grand-chose dans la musique, mais elle a toujours soutenu nos idées. Mon frère, il était fier de nous, surtout mon frère. On a commencé les deux, après, bien sûr, moi après lui, au conservatoire classique. Il était fier parce que nous, on vivait dans vraiment des ghettos d'Istanbul. On était très, très pauvres. Et pour eux, quelqu'un qui va accéder dans son orchestre... Conservatoire symphonique symphonique d'Istanbul, au Conservatoire classique d'Istanbul. C'est un grand événement. Il était d'abord fier de nous. Et plus en plus, chaque fin de l'année, on avait des concours de concerts. Donc chaque élève faisait ce concert. Et puis chaque fois, donc, elle venait, elle pleurait
d'émotion.
Ah oui, d'émotion. Oui, elle voyait ses fils, mon frère et moi. Donc elle était toujours fière de nous. Jusqu'à ces derniers moments, elle était toujours fière de nous.
Yıllarca sabrım. 1977, vous arrivez à Neuchâtel. Vous êtes arrivé par où ? Par la gare ? Par la place Puri ? Par le lac ?
Non, avec la voiture, c'est très... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme j'étais première fois en Suisse, donc 69, après Thun au Berne, après on est parti de station ski, qui s'appelle Arosa, donc c'est un endroit très connu. Et là, je connais ma première femme. Elle était neuchâteloise. C'est automatiquement, donc, fin de la saison... Je suis venu avec elle ici à Neuchâtel, mais en même temps je tournais, donc quand j'avais 2-3 jours libres, je venais à Neuchâtel, c'était déjà bien avant le 77, parce que je suis venu en 70, et après, de mon retour depuis la Turquie, parce que entre deux j'étais encore en Turquie, le 72, j'ai dû faire mon service militaire, tout ça, et puis quand je suis venu, et puis là d'ailleurs, on s'est remariés, et puis on a établi à Neuchâtel, quoi, depuis.
Le ciel est bas, l'amour est loin. Je tends les bras dans le besoin. Le jour s'éveille sans illusion, dans un sommeil pharaon. Mes cigarettes l'on se consume, mais dans ma tête, rien ne s'allume. Je cherche en vain à exister, un quotidien à inventer. Je sais pas quelle direction faut prendre, taxi driver, où dois-je descendre? Je sais pas quelle direction faut prendre, taxi driver, où dois-je descendre? Où dois-je descendre?
Pascal Auberçon, taxi driver. Pascal Auberçon, l'un des amis d'Erdal Kisilce, et Erdal, on l'entend jouer de la basse dans ce titre. Puis c'est l'occasion de parler de l'aventure neuchâteloise d'Erdal Kisilce, l'invité de Par ici la musique.
Je rêvais toujours de construire mon studio, qu'il n'y en avait pas dans la région à cette époque-là. Mais je jouais plus en plus avec des artistes qui sont très connus, côté surtout suisse romand, ainsi que suisse allemand. Et premier artiste donc, que je commence à jouer, c'était Pascal Auberçon, grâce à ça, Antoine Auberçon, donc, qui est son frère, parce qu'on avait un groupe avec Sébastien Santamaria, ça s'appelait Notas, avec John Woolhoff, donc le guitariste anglais, tout le monde le connaît. Tout à coup, Sébastien, moi, John, on a commencé à faire toutes les séances à Genève. Ce fameux studio s'appelait Aquarius.
Ouais.
Voilà, absolument. C'était vraiment le moment. Et puis là, je commençais après ces genres de studios. J'ai décidé de faire un studio à moi-même. Et petit à petit, je commence à jouer avec beaucoup de monde ici, surtout à côté suisse romand, aussi en suisse allemand. Mais comme je dis tout à l'heure, Jean-Pierre Huser, Pascal Auberçon, Yvette Terola, Dominique Schneider. On a fait beaucoup de concerts. Et je joue aussi avec un groupe balois qui s'appelait Fusion. Tout à coup, je commence à faire un petit nom comme bassiste. D'ailleurs, ça venu jusqu'à le jour. Au jour, on m'a appelé depuis Mountain Studio de Montreux pour un enregistrement très, très important. C'était un ami de moi, s'appelait, peut-être vous connaissez, André Tesori, qui habitait à Yverdon. Il m'a appelé, il a dit, écoute, on a besoin d'un bassiste comme toi et puis on aimerait avoir ça. Et c'était pour David Bowie. Il habitait d'ailleurs à l'époque à Lausanne, donc David. Et après, donc, ça a commencé depuis là.
We'll be right back.
ici la musique.
À quel moment vous apprenez que vous allez jouer pour David Bowie? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu?
Ben écoutez, d'abord, quand ils m'ont appelé pour la séance, donc pour le démo, donc le fameux Nile Rodgers, qui est le grand producteur, qui a fait beaucoup d'albums avec beaucoup de gens connus. Et on a fait juste deux, trois jours de démo. Donc c'est moi qui ai continué après pratiquement tout seul. Et Nile, il m'a dit, David, il adore quand tu joues la basse. Éventuellement, tu vas faire la tournée. Mais il prépare la tournée, ça s'appelait Serious Moonlight Tour. Et après, j'ai plus rien entendu. Ça fait presque une année, j'ai dit, bon, ok, blablabla, bla, bla, c'est normal. Et,
c'est, blablabla, bla, c'est le cas de le dire.
Oui, plus, c'est l'album, oui, on a fait, absolument, on a fait l'album de Iggy Pop, ça fait blablabla. Bla, bla, bla. Mais j'étais un peu vexé quand même, je dois dire. Et tout à coup, voilà, tout à coup, un jour, presque une année après, la tournée est finie, et téléphone sonne, et puis, il dit bonjour, il dit quelqu'un en anglais, hi Earl, this is David. Il dit David qui? Enfin, je connais beaucoup de David. Il dit, this is David Bowie, man. Il dit, oh, ouais. Bah, tu veux venir, j'aimerais t'inviter avec ta femme, donc si tu veux venir manger chez moi. Et puis, donc, il habitait à Lausanne à l'époque. Il dit, bon, ok, j'y vais quand même, et puis voir ce qu'il veut exactement. C'est vrai que, je viens de blablabla, il avait le soir. Iggy Pop, enfin, il s'appelle Jimmy, Jimmy Oxenberg, c'est son vrai nom. Et Jimmy avec sa femme, ma femme, donc David, tout le monde, on a mangé, hein, on a eu un super dîner un soir. Il m'a dit, écoute, j'ai une idée, je sais que tu joues beaucoup d'instruments. Est-ce que peut-être on peut commencer déjà un peu échanger des idées, tout ça. Et j'ai entendu, tu as un petit studio à Neuchâtel, je peux venir parce que c'est, il n'y a pas de problème. Je dis bon, ça m'intéresse beaucoup. Donc, il est venu après plusieurs fois à Neuchâtel. D'ailleurs, tout le monde connaissait ça. À Neuchâtel, c'était un événement pour
tout le monde. Je me souviens qu'on en parlait.
Oui. Et puis, il venait deux fois par semaine. Si je ne me trompe pas, c'était les mardis et les jeudis. Bien évidemment, moi, j'ai chez nous à la maison. Après, continuer de bosser. Et là, ça a commencé les idées. Et puis, il a décidé, on fait l'album de Iggy. Même temps, je composais avec lui, co-composais, si vous voulez, trois morceaux déjà. Qu'il est certain qu'ils sont dans l'album de Never Let Me Down. Un morceau s'appelle Girls, qui est aussi Tina Turner chanté. David Bowie, c'est une musique de film, s'appelle When the Wind Blows, une guerre atomique, donc qui était. Et encore, j'ai fait Too Dizzy dans Never Let Me Down. Ça a commencé comme ça, et puis surtout l'album de Iggy, donc s'appelle justement Blablabla. Bla, bla. Ouais, ouais. Et après, on a commencé, il était tellement content, c'était un grand succès. Il a décidé de faire son album avec moi, ça s'appelle Never Let Me Down, album. Et après, la tournée mondiale, et puis ça commence à une vitesse incroyable. Pas devenu meilleur musicien, j'ai toujours resté la même chose. Simplement, quand vous bossez avec David Bowie, et puis il est content, ainsi les fans, et ça marche surtout. Et bien évident, donc ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Ça, je dois dire, tous ces gens qui m'ont contacté après, c'est grâce à David Bowie. Donc, comme Freddie Mercury, comme Roger Taylor, donc batteur de Queen. Tout à coup, je me suis trouvé au milieu de Jane Sibri au Canada, qui est venue ici d'ailleurs à Neuchâtel. On a fait des choses ensemble, enfin, musicalement parlant. Et puis, tout à coup, je me suis vraiment trouvé dans au milieu de la scène internationale et vraiment surtout des stars. Donc, d'ailleurs, je continue encore.
Non seulement en écrivant des chansons, non seulement en enregistrant, mais également avec des tournées internationales. Il y a des vidéos où vous êtes avec David Bowie à Tokyo, à Londres. Quand vous êtes sur scène et que vous jouez avec ces artistes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un trac qui se passe ou bien c'est une folie? Comment est-ce que vous définissez ça?
Bien sûr, folie et puis la traque aussi qui est avec, mais ça devient tout de suite la routine parce que le répertoire est la même chose et les voyages sont la même, les hôtels sont plus ou moins la même chose, et où je vais pratiquement la même chanson tout le temps, bien sûr.
C'est jamais dangereux cette routine dont vous parlez?
Oui et non, peut-être pour l'artiste, parce que nous on commence un peu trop relaxé peut-être sur scène, ça c'est parce qu'on a eu quand même quelques disputes avec David, après il n'était pas content parce que le critique était de temps en temps. La traque j'ai eu au début, mais pas après. Donc, on a fait plus que 100 concerts, 110 concerts, je crois. Première tournée mondiale s'appelait The Glass Spider, qui était 1987. Après j'ai fait une deuxième tournée mondiale, Sound Vision, là vous parlez de Tokyo. Eh bien, bien évident, c'est aussi pas loin de centaines de concerts dans une année. Puis une tournée, ça vous tue. C'est pas comme les gens pensent, c'est les fameux, et puis les bodyguards, et ça ici. Vous voyagez non-stop. Vous n'avez même pas le temps d'ouvrir vos valises complètement. Il faut soit aller avant les fans qui viennent dans le stadium, parce que souvent on a joué dans un grand venue comme 40 000 personnes, 50 000, 60 000. À Paris, on a joué à Courneuve, c'était 94 000 personnes. Wembley, on a fait 2 jours sold out, 80 000 personnes chaque jour. Donc, vous partez bien avant et vous partez avec hélicoptère ou comme ça, parce qu'il y a des milliers de gens qui sont sur la route, c'est impossible. Vous arrivez juste à peine, il faudrait partir dans l'avion pour un prochain concert que vous allez faire peut-être 500 km ailleurs ou bien partir d'autre continent dans 2 jours. C'était un peu la stress, je dois dire. Je vous avoue qu'au bout de 6e mois, et donc vous connaissez Peter Frampton, donc il était dans la première tournée avec moi. Un jour il m'a dit, Erdal, tu tires un peu la gueule ou je me trompe? Je lui ai dit, non, mais j'en ai marre, j'ai envie de tourner quoi. Au 6e mois, il me dit moi la même chose, j'ai envie de tourner à la maison quoi. C'est assez dur, je dois dire. Mais l'autre côté, bien sûr, vous en profitez de... Il y a beaucoup de magazines qui écrivent, j'étais dans le Keyboard Magazine, dans le Guitarist Magazine, beaucoup de télévision, beaucoup de radio, comme maintenant on fait ça aussi avec vous. Et bien sûr, les gens vous connaissent, puis vous recevez beaucoup de lettres, beaucoup d'amitié, tout ça. Les gens vraiment vous applaudissent. J'ai un meilleur métier du monde, je trouve. Je me fais plaisir sur scène. Et je suis payé pour... Et puis les gens qui m'applaudissent, quoi. C'est formidable.
Over my head, don't you wonder sometimes? I've shown a vision.
Parfois, dans ces moments-là, vous dites c'est encore plus avantageux de s'appeler Erdal Kizilçay que David Bowie ou Freddie Mercury. Est-ce que parfois vous vous êtes dit j'aime autant être à ma place qu'à la leur?
Absolument, absolument. J'ai souvent pensé à eux parce qu'ils ne peuvent même pas sortir depuis leur chambre d'hôtel, quoi. Ils sont carrément dans la prison. Entre la scène et cet hôtel, c'est tout. Ils ne peuvent rien faire. Nous, on est quand même libres, on peut sortir, manger... promener avec les copains, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sans eux, non, on ne va pas exister non plus, donc ça c'est normal.
Erdal Kizilçay, on a parlé de certains éléments de votre parcours, mais je crois que pour vous, s'il y a une belle expérience musicale à relever, c'est Notas, avec Sébastien Santamaria.
Ah oui, merci. pour parler de Sébastien, malheureusement, il nous a quittés, ça fait un peu plus que 15 ans, je crois, maintenant. Sébastien, c'est un des plus grands musiciens que j'ai connu de ma vie. Je pense toujours qu'il est toujours grand musicien pour moi, parce que même aujourd'hui, quand je compose, j'ai écrit quelque chose, il vient automatiquement dans mes pensées, musicalement, penser à Sébastien. C'est peut-être grâce à lui qu'il y a beaucoup de choses changées dans ma vie musicien, parce que c'est moi qui lui ai appelé, je voulais jouer basse avec le groupe. Sébastien avait un groupe avec Antoine Auberçon, ça s'appelait Notas. Voilà, Notas, et puis là, on jouait à Neuchâtel. Et comme moi, c'était mes années de bassiste, un peu Jacob Pastorius, The Weather Report, j'ai appelé Sébastien dire, je veux jouer la basse avec vous. Il a dit, bah, ok, mais tout le monde peut jouer, mais ça veut dire quoi? Nous, on a un bassiste. Et je prouvais que j'étais mieux que leur bassiste. Alors, je reste avec Notas. C'est grâce à ça, je commence à faire le Pascal Verson, le studio Aquarius à Genève. Tous les artistes commencent à faire. C'est grâce à Notas et Sébastien Santamaria. Ça commence ma carrière, si vous voulez.
Mais Notas, c'était justement, musicalement, vous aviez plus de liberté, plus de possibilités de vous exprimer.
Ah oui, absolument. Donc c'était tous les membres du groupe, c'était excellents musiciens, je dois vraiment dire ça. C'était les années où on adorait jouer fusion music, dans le style jazz et rock, enfin, on appelait ça jazz rock. C'était vraiment l'époque de Weather Report, donc comme Chick Corea, Herbie Hancock, c'était vraiment les années 80. Ça marchait des choses, c'était incroyable. Et puis moi, plus en plus, encore aujourd'hui, j'adore jazz rock. Et je me suis vraiment trouvé dedans. Et j'ai en profité de devenir un bassiste qui pourrait pratiquement tout jouer. Depuis, si vous me demandez de jouer le jazz, je jouerai le jazz pour vous. Si quelqu'un me demande le rock, je jouerai aussi le rock. Souvent, j'ai un spectrum assez large, ce côté-là. C'est grâce à mon éducation musique classique. J'étais aussi à l'école de jazz à Berne, donc Swiss Jazz School. J'ai aussi joué trombone, je jouais piano, donc tout ça. J'avais un peu mélangé tout. Tout à coup, je suis vraiment devenu un bassiste qui pouvait tout jouer depuis Weather Report jusqu'à Cancan, depuis classique jusqu'à, je ne sais pas, de jazz. Quoi.
La musique.
D'où vient la musique selon vous, Erdal Kizilcay?
Oh, c'est une question difficile. D'où vient la musique en moi, vous dites? Ben, je ne sais pas, c'est peut-être le Dieu, enfin, talent, on appelle ça, je ne sais pas. Je peux vraiment appeler ça du talent. Et
ça vient du ciel?
Je pense. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de très religieux, mais c'est la vocation, je trouve. Si Dieu m'a aidé peut-être depuis mon enfance, je voulais vraiment être musicien. Et j'ai décidé pour ça. Je suis devenu un. Hein. Et la musique, j'ai toujours été musicien. Depuis tout gamin, tout le monde me montrait là avec le doigt. Il est vraiment incroyable ce mec. Il peut, comme mon fils là, il a 14 ans, il a déjà joué avec moi à Londres. Tout le monde ne croyait pas à 14 ans comment il peut jouer. Le mec, il joue très très bien. Donc c'est un batteur, c'est mon batteur préféré. Donc la musique, ça vient peut-être, ma famille avait quelque chose, parce que mon papa il dansait avec son groupe folklorique, tout ça. Et quand je ne connaissais pas, bien sûr, j'étais très jeune, mais musique c'est venu comme ça. J'ai découvert aussi moi-même avec mon frère, tout ça, et puis surtout mon frère qui m'a aussi un peu aidé, ce côté-là. Et mes décisions m'ont beaucoup aidé à devenir musicien, aussi venir ici en Suisse, en Europe. Parce que je peux toujours rester à Istanbul, ce ne sera pas la même chose. Bien sûr, tout le monde me connaît là, à l'époque aussi, les gens me connaissaient là-bas. Mais quand même, ici, c'est complètement autre chose, venir ici en Suisse. Et puis j'adore la Suisse. Et puis d'ailleurs, tout part depuis là. Je peux toujours voyager, je reviens toujours de retour à la maison.
Ticket to Ride, un extrait de l'album Beatles à la Turca, un album réalisé par Erdal Kisilçay avec l'aimable autorisation de Sir Paul McCartney, s'il vous plaît.
Cet album, quand on a fait la maquette première fois, notre ami qui a chanté avec moi sur l'album, il a envoyé ça à Paul McCartney, parce que MPL Music, c'est Paul McCartney, il a tous les droits, donc il l'a acheté de Michael Jackson, c'est Paul McCartney qui les possède. Et sans la permission d'édition, impossible de sortir un CD, enfin légal. Donc, il a écrit tout de suite, 5 jours après, on a reçu un fax, dire envoyez-moi encore plusieurs de CD de ça, on adore, vous avez tous les permis, il y a même des preuves de ça. Et il a tout de suite permis de musique MPL, donc autrement impossible de chanter Beatles, commercialiser un album comme ça. On a chanté en anglais, mais c'est avec ça s'appelle Beatles à la Turca, mais c'est un album qui est orchestré par 25 personnes, tout est écrit par moi, pratiquement tout est joué par moi. En dehors le vrai authentique violon et puis les percussions, les instruments turcs, le reste est moi et puis l'arrangement, production, tout est Erdal.
Est-ce que la musique vous a apporté tous les rêves que vous attendiez, Erdal ?
Je pense que oui. Je dois aussi dire que j'ai eu beaucoup de chance. Bien évident, il faut quand même aller forcer la chance. Elle ne vient pas toute seule, ça c'est clair. Oui, il faut la provoquer. Je crois que je l'ai provoquée, la chance. Et si vous ne jouez pas au loto, enfin, vous n'allez pas gagner. Donc c'est la même chose. Donc j'ai joué. Et je pense que j'ose dire, j'ai gagné. C'était ma vocation et puis je l'ai trouvé. J'ai eu la chance ce côté-là, justement.
En tant que musicien turc, est-ce que vous pensez que ça aussi, ça a dû vous motiver encore plus en disant « Ok, je viens d'Istanbul, je viens en Suisse, mais moi, j'ai vraiment la pêche ».
Oui, moins les années 70, parce qu'on était avec un groupe qui était sous contrat, donc on jouait dans le local. Mais après, quand je me suis marié, donc je me suis établi à Neuchâtel, là j'étais seul comme un musicien turc. Et là, c'était très difficile. Enfin, très difficile, je dois dire, je ne veux blâmer personne, mais j'avais le fort sentiment, il est turc, qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? J'ai senti cet sentiment par les gens-là. Un peu, on vous montre avec le doigt, d'abord parce qu'ils n'ont pas arrivé à faire ça, ce que j'ai fait, ce que j'ai entamé. Et puis, j'ai décidé des choses. Quand je décide, je le fais toujours. Et j'ai dit, vous allez voir, je vais le faire. C'est moi qui ai ouvert le premier studio, c'est moi qui ai fait des concerts là-bas, c'est moi qui ai amené les gens connus internationaux depuis. On ne parle que de David Bowie, Freddie Mercury, il y a aussi Jacques Dutronc, François Hardy, donc le côté français, Bernard Lavillier, Catherine Lara, Jackie Quartz, je joue avec énormément de monde. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de monde qui connaissent le nom d'Erdal en étant un bon musicien, mais pas forcément, bien sûr, le turc, je ne veux pas effacer ça, je suis fier de ça. Mais je suis aussi fier d'être Neuchâtelois, donc les gens savent, même en Suisse, même en France, il est de Neuchâtel.
vit la musique.
Erdal Kizilçay était donc notre invité aujourd'hui. Vous retrouvez l'émission et même encore un petit peu plus sur le blog de Par ici la musique. À très bientôt pour découvrir d'autres invités et d'autres richesses musicales.